France Culture. Quentin l'a fait.
Un an exactement, un an, jour pour jour, qu'est tombée l'une des dictatures les plus sanguinaires, les plus terrifiantes du XXe siècle, du XXIe également, le régime et le système Assad. Un an après, plus de deux ans après le 7 octobre 2023 et la riposte militaire de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, c'est tout le Proche-Orient qui se reconfigure. Alors, sommes-nous à un moment de bascule dans l'histoire du Proche-Orient? Comment les cartes, les alliances, les rapports de force se redessinent-ils? Un invité ce soir pour analyser ce qui se déroule sous nos yeux. Ziad Majed, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, professeur à l'Université américaine de Paris. Votre livre intitulé « Le Proche-Orient, miroir du monde » a paru il y a quelques semaines aux éditions La Découverte. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
À ceux qui ont parié sur nous et à ceux qui ne l'ont pas fait. À ceux qui pensaient un jour que nous étions brisés, nous vous annonçons depuis la chaîne d'information syrienne la victoire de la grande révolution syrienne après 13 ans de patience et de sacrifice.
On vit un rêve maintenant. On ne croyait jamais qu'on va arriver à ce moment-là. Je pense que tous les Syriens ici, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé.
Vraiment, j'espère que la Syrie devient un pays de droit humanitaire, de justice, et que tous les criminels qui ont commis des massacres en Syrie se présentent à la justice.
C'est la joie, c'est la peur, c'est la vie, c'est l'espoir. C'est un combat depuis des années 70 pour libérer la Syrie d'un régime qui ne voulait pas avoir la démocratie. C'est une nouvelle vie pour la Syrie.
C'est toujours aussi émouvant, Ziad Majed, d'entendre cette liesse. Alors quel état d'esprit, un an après, prédomine? La joie formidable, indicible, ou l'optimisme nécessaire mais tempéré face aux défis colossaux que sont la reconstruction, la justice transitionnelle, la vie ensemble, par-delà les divisions et les fractures syriennes?
Alors, il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui peuvent expliquer la situation. Certainement, la joie et l'euphorie même, après la chute d'un régime qui a dominé la Syrie pendant 54 ans, qui a commis des massacres, qui a transformé l'espace carcéral en une industrie de la torture et de la mort. Après 54 ans de peur quotidienne, une peur quotidienne qui écrasait les gens, c'est évidemment toujours un sentiment de joie, il y a des célébrations. Mais en même temps, les gens sont rattrapés aussi par la réalité des défis. Il y a la reconstruction qui n'a pas démarré. Il y a les réfugiés qui sont toujours à l'extérieur. Mais il y a également les déplacements, les déplacés internes et tout le déplacement avec les problèmes qu'ils créent. Les changements démographiques, la pression sur l'infrastructure. Il y a toujours des coupures d'électricité et d'eau. Et puis, il y a eu, depuis la chute du régime, malheureusement, deux grands épisodes de violence interne où le nouveau régime peut être tenu responsable en grande partie de ces deux épisodes, l'un sur le Sahel de la Syrie, donc le littoral où majorité des Alaouites vit, et l'autre dans le sud, du côté de Souaïda, où une majorité de Druzes y vit également. Et dans ces deux épisodes, il y a eu des massacres, il y a eu des centaines de victimes civiles. Donc pour beaucoup de Syriens, ils s'attendaient à un processus de transition avec un esprit au moins de droit, pour ne pas dire de démocratie, de respect des libertés et de la diversité syrienne après tous les sacrifices et après tout le travail qui a été fait par les Syriens et les Syriennes. Donc il y a des déceptions, et dans certains cas de grandes déceptions, mais ça reste quand même un moment historique, un an après la chute de 54 ans de terreur, et ça a des conséquences et des répercussions dans toute la région.
Est-ce qu'en dépit de ces massacres affreux, terribles que vous décrivez, est-ce qu'en dépit également des tensions et des divisions communautaires, il existe autour du régime, autour du nouveau président syrien Ahmed El-Sharaa, une forme de soutien, d'unité?
On peut considérer qu'il y a une base sociale aujourd'hui du régime. Il y a tous ceux qui ont accompagné Ahmad al-Sharaa dans sa montée en puissance à partir des années 2017-2018, quand il s'est construit politiquement dans la région de Idlib, et puis à travers les alliances et les réseaux qu'il a tissés, soutenus par le Qatar et la Turquie pendant un moment. Et puis aujourd'hui, il y a une certaine habileté politique. Il a réussi à se construire des ponts vers Donald Trump, vers les responsables européens. Il ne figure plus sur des listes de terrorisme. Il a de très bons liens avec l'Arabie Saoudite. Donc, tous ceux qui peuvent l'aider dans la reconstruction et même dans une quête de légitimité politique, puisqu'il n'est pas élu. Il n'y a pas encore eu d'élection en Syrie. Donc, durant cette transition, il y a une base sociale du régime. Et puis, il va y avoir certainement une base affairiste, celle qui va être investie dans la reconstruction, dans la gestion du champ économique. Mais il y a encore des clivages en Syrie qui sont très difficiles à gérer, y compris le clivage confessionnel, donc avec les Alaouites et les Druzes, mais aussi, il y a un autre clivage avec les Kurdes, qui contrôlent 20% ou un peu plus du territoire épaulé par les Américains. Il y a, depuis le 8 décembre 2024, Israël a élargi la zone d'occupation en Syrie et bombarde d'une manière quotidienne certaines zones non loin du Golan occupées depuis 1967. Sharaa est poussé par Trump pour normaliser avec les Israéliens, mais il a à la fois du côté israélien, il n'y a pas une volonté d'accélérer ce processus, et de son côté, il est réticent parce que cela voudrait dire reconnaître la légitimité de l'occupation israélienne du Golan. Ce qu'il ne peut pas faire. Donc, il y a des choses qui tardent, et l'aide économique tarde, et donc la Syrie reste un chantier où tout est possible, mais où il y a de plus en plus de risques, surtout avec la question confessionnelle qui n'est pas du tout réglée, et le manque de justice, de transition et de transparence politique dans toutes les procédures qui ont démarré.
Je voudrais qu'on regarde quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns des défis auxquels doit faire face la Syrie aujourd'hui avec vous, Ziad Majed. Commençons par les vivants, celles et ceux qui sortent des prisons, des ex-prisons de Bachar el-Assad. Comment les réintégrer dans la société syrienne? Comment les Syriens s'organisent aujourd'hui pour tenter de leur faire une place?
Oui. Alors, il y a d'un côté les familles et il y a tous les réseaux au niveau de ce qu'on appelle une société civile qui a l'habitude de montrer des formes de solidarité avec les victimes du régime. Il y a eu beaucoup de travail de documentation et beaucoup de travail de juristes qui a été fait. Il y a aujourd'hui des initiatives pour aider celles et ceux qui sortent des prisons vivants à se réintégrer, à trouver un travail, mais ça reste des initiatives beaucoup plus individuelles ou familiales que gérées par l'État lui-même, qui n'a pas les moyens et qui ne montre pas non plus une volonté de considérer ce dossier comme une priorité. Puis il y a des organisations internationales qui s'intéressent, qui tentent de suivre, mais en général, il n'y a pas de politique nationale par rapport aux survivants ou à ceux qui ont réussi à survivre la torture et qui ont été libérés avec la chute du régime. Pardon.
Et cette absence de politique à l'attention de ces survivants, est-ce qu'elle manque aujourd'hui? Est-ce qu'elle manque?
Oui, certainement. Elle manque par rapport à ces personnes, elle manque par rapport aux déplacés internes, elle manque par rapport à toute la gestion de la propriété privée, parce que vous savez, quand un bâtiment est détruit et quand il y a plusieurs appartements, on n'a pas nécessairement les documents qui prouvent la propriété, qui prouve le loyer. Il faut gérer des millions de personnes. Et ce n'est pas juste des cas de quelques bâtiments. C'est un pays ravagé.
3,1 millions de réfugiés et de déplacés selon le Haut Comité pour les réfugiés. Les déplacés sont les déplacés internes, évidemment. C'est même la majorité de ces personnes qui doivent rentrer chez eux au cours des dernières semaines.
Oui, et il reste des millions qui sont toujours dans les pays voisins, Turquie, Liban, Jordanie. Il reste des centaines de milliers en Europe. Certains vont devoir se reconstruire peut-être ailleurs, et ils ont opté pour cela depuis un moment. D'autres veulent revenir. Et puis, il y a toute la scène interne qui peut être affectée par le déplacement et le retour avec des zones sans infrastructure, sans service. Donc, c'est un énorme chantier, et certains économistes parlent de 200 milliards de dollars qui sont nécessaires pour reconstruire la Syrie, et on est très loin de pouvoir les récolter ou de les avoir.
Sur la justice transitionnelle, Ziad Majed, vous en avez parlé. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre depuis un an et quel espoir réside là aussi dans ces morceaux, ces fragments d'institutions qui ont été dépliés depuis un an?
Oui, encore une fois, cette question qui est centrale et qui traite de toute l'impunité qu'a connue la Syrie et que connaît toute la région d'ailleurs du Proche-Orient, on n'a pas encore commencé à mettre en place les institutions de justice nécessaires. Il y a des promesses et aujourd'hui...
Et beaucoup de déclarations et des embryons d'institutions.
Oui, mais ça n'a pas encore donné lieu à un travail de fond. Ça reste encore l'initiative des juristes, de certaines organisations qui tentent de documenter, qui ont des documents aussi par rapport aux archives de l'espace carcéral. Comme tous les régimes totalitaires, il y avait une obsession administrative bureaucratique s'agissant des numéros des prisonniers, s'agissant de tous les détails qui accompagnaient l'arrestation et puis la détention. Mais on n'a pas encore, par exemple, les geôliers, certains ont soit pris la fuite, soit trouvé un moyen pour rester et trouver des formes de tolérance ou de réconciliation qui les absorbent, qui leur permettent de
poursuivre
la vie, de se réintégrer. Donc, la question de la justice, elle est très importante et ça va aussi mener à des négociations plus tard avec la Russie, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Sultanat d'Oman, avec le Liban, où se trouvent plusieurs hauts responsables du régime Assad et qui ont commis des crimes et qui doivent probablement être rapatriés en Syrie pour affronter la justice syrienne.
Vous l'avez mentionné, Ziad Majed, la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président intérimaire de la Syrie, c'était le 10 novembre dernier.
C'est un leader très fort. Il vient d'une région très rude et c'est un dur à cuire. Je l'aime bien. Je m'entends bien avec le nouveau président. Et nous ferons tout notre possible pour réussir, car nous faisons partie du Moyen-Orient. Si vous regardez en arrière, la Syrie pendant des années avait des médecins, des avocats, des intellectuels. C'était un endroit incroyable avec des gens formidables. Et nous voulons voir la Syrie réussir, comme le reste du Moyen-Orient. Je suis donc convaincu que nous serons en mesure de faire le travail.
Donald Trump qui évoque le président intérimaire syrien Ahmed el-Sharaa, qui lui a même mis au sein du bureau ovale des pchites de parfum siglé Donald Trump. C'est quand même le comble de l'humiliation. Est-ce que malgré cela, malgré tout, on observe pas à pas un retour de la Syrie sur la scène internationale?
Oui, on peut parler d'un retour sur la scène arabe et internationale, mais il reste un retour assez timide et surtout... C'est le retour que tolèrent les responsables, comme le président américain, qui, on voit dans son langage simpliste, considère qu'aujourd'hui la Syrie représente à la fois une opportunité d'investissement, donc de reconstruction, où les sociétés américaines peuvent jouer un rôle. Il a ça en tête. Et il a en tête aussi le voisinage de la Syrie. Donc il y a l'Irak, il y a le Liban, et il y a surtout Israël. Et le président Trump ne cache pas sa volonté d'encourager Israéliens et Syriens de signer un accord, les accords d'Abraham. Donc il y a un enjeu important. Côté européen, il y a deux grands enjeux. La Syrie reste quand même un pays méditerranéen. Mm-hmm. Donc c'est le voisinage direct. La reconstruction peut être importante pour des investisseurs européens. Et il y a la question des réfugiés et la question du retour de certains, ou du moins du fait que ceux qui sont au Liban et en Turquie puissent rentrer et ne restent pas, selon certains Européens, comme une menace si jamais ils décident de tenter leur chance en Europe. Donc, il arrive, Sharaa, à profiter de tout cela. Il profite aussi du besoin saoudien d'avoir une Syrie plus ou moins forte dans l'espace arabe. Il profite du fait que l'Iran a perdu de ses moyens pour tenter une nouvelle expansion politique et militaire dans la région. Et puis même avec la Russie, il s'est rendu à Moscou. Il y a des ententes et des accords avec la direction russe. Donc il tente de montrer qu'il arrive à s'imposer. Lui qui était considéré chef d'une organisation terroriste, lui qui avait un passé assez lourd pour les Occidentaux, le voilà aujourd'hui au centre du jeu. Donc c'est une réussite personnelle pour lui, mais ça montre aussi que du côté occidental, la question démocratique n'est pas une question centrale. Ce qui est central aujourd'hui chez Donald Trump et chez plusieurs chancelleries européennes, c'est la question de la stabilité, tout en tolérant des situations de tension interne tant qu'elles ne débordent pas et tant qu'elles ne menacent pas au niveau des réfugiés et au niveau sécuritaire l'entourage de la Syrie.
Vous avez mentionné, Ziad Majed, j'ai pris des notes lorsque vous parliez, la Syrie, l'Irak, le Liban, Israël. Je cite un extrait du livre que vous venez de faire paraître aux éditions La Découverte, intitulé « Le Proche-Orient, miroir du monde ». Vous demandez « Que pouvait-il advenir d'un ordre régional délité par les guerres, miné par l'occupation, accablé par les despotismes, ravagé par les interventions étrangères brutales et fragilisé par les faillites étatique. Pourquoi commencez-vous cet ouvrage en posant cette question à la fois fataliste, pessimiste et lucide ?
Alors, pessimiste, oui, temporairement, disons, parce que je pense, connaissant un peu cette région, un peu de près même, qu'il y a une capacité de résilience et une capacité de travail et de créativité et d'imagination qui a aidé les sociétés à dépasser, à traverser des moments d'une intense violence et d'une barbarie rare à travers cette histoire contemporaine que nous connaissons et que moi-même, j'ai vécu directement en partie. En même temps, aujourd'hui, on est devant un moment où, si on regarde la carte, il y a une Syrie dévastée par la guerre et par le régime Assad et par toutes les interventions, et récemment par une nouvelle occupation israélienne.
On va y revenir.
Il y a un Liban ravagé par ses crises économiques, par la médiocrité de sa classe politique avant 2024. Il y a l'explosion du port, l'effondrement des banques, etc. Et puis, il y a eu la guerre israélienne qui a ravagé tout le sud Liban, qui a détruit des villages, anéanti des espaces urbains. Et il y a une occupation qui dure, avec même une occupation des drones du ciel libanais d'une manière presque permanente. Il y a l'Irak qui a connu une série de guerres et de déchirures au niveau de sa société, au niveau du fonctionnement de son État. Et puis, il y a eu, depuis le 7 octobre, une série de guerres et de changements dans la configuration palestinienne, que ce soit avec le génocide à Gaza, que ce soit avec l'occupation et la colonisation qui s'accélère en Cisjordanie, avec une volonté israélienne d'annexer, même si Donald Trump tente de nuancer et de calmer un peu les jeux, mais elle est là toujours avec la colonisation. Et il y a donc une domination militaire israélienne, avec des fragilités dans les pays à côté, avec cette fois un sentiment dans la région que les Palestiniens, les Libanais et les Syriens, mais surtout les Palestiniens, sont occultés de tout ce qui doit gérer l'humanité, le droit international, les droits humains, que ça n'a pas été, non seulement ça n'a pas été respecté, mais comme si tout cela n'a pas été conçu pour eux, ils sont juste des personnes dont les corps sont devenus accessibles en tant que cadavres, on les voit, les corps sont exhibés sans qu'il y ait une empathie suffisante. Il y a un universalisme qui connaît un déclin terrible, même dans les démocraties occidentales, s'agissant de cette région du monde. Si on tente d'expliquer, de la contextualiser, de raconter son histoire moderne, il peut toujours y avoir des risques de censure. Donc quelque chose a changé récemment, d'une manière assez choquante, assez violente, et ça se ressent là-bas, en plus du quotidien qui est très très difficile. Et je termine juste par une autre, ce n'est même pas une métaphore, mais un autre concept que je trouve assez puissant maintenant, c'est que la ruine, en partie, dicte le quotidien des gens. Parce qu'on est face à un urbicide, des villes détruites, des quartiers qu'on ne reconnaît plus, des villages rasés dans le sud Liban, par exemple. Alep, La Ghouta, Jobar, Yarmouk, en Syrie, c'est la même chose. Raza tout entier a été urbicidé. La Cisjordanie a, dans certains camps de réfugiés là-bas, il y a la même chose. Donc la ruine occupe, en tant que paysage, une place centrale dans la vie des gens qui doivent se réinventer malgré les champs de ruines, malgré les cadavres qu'ils ont vus et qu'ils portent en eux, et malgré un monde qui les oublie et qui presque les méprise, et méprise ceux qui se mobilisent pour eux.
Et donc, dans le même temps, Ziad Majed, vous me disiez juste avant que l'émission ne commence que dans le sud Liban, une région d'où est originaire votre famille, la ruine même n'existe plus, la ruine même n'était plus visible. Lorsque vous vous y êtes rendu au cours des derniers mois, vous n'avez même pas reconnu les murs, les ruines, les fondations des maisons que vous connaissiez.
Oui, parce que dans certains cas, la ruine comme concept, je l'évoquais, mais c'est vrai que dans certains cas, la puissance de feu qui a été utilisée ne laisse même pas les traces des maisons. On peut arriver dans un espace qu'on connaissait tellement bien et que dans des guerres précédentes, on pouvait voir ce qui reste des décombres, on pouvait compter les pas pour savoir que là, il y avait tel magasin, là, il y avait telle famille qui habitait, il y avait un centre de ce côté où des activités avaient lieu. La dernière visite est certaines des images que je vois de villages qui sont juste du côté de la frontière, ce ne sont que des espaces vides où la poussière règne. C'est-à-dire qu'on a transformé les maisons avec toutes les vies qu'elles contenaient, avec toutes leurs histoires, en champs de poussière. C'est encore plus dur pour les gens qui ne peuvent plus, comme dans des guerres précédentes, sauver une partie du matériel, des images, des photos, des albums, ce qu'il y avait dans tel tiroir, une chaise qu'on montrait fière comme quoi elle a survécu au bombardement. Cette fois, c'est une destruction massive. Et d'ailleurs, ce qui s'ajoute à cela et que je trouve très violent, ce sont les propositions officielles maintenant des États-Unis d'Amérique et d'Israël qui sont fournis aux Libanais comme aux Razaouis, oui, aux Palestiniens à Gaza, c'est que dans certains lieux, ce n'est même pas la peine de reconstruire. On peut créer des zones économiques libres où il va y avoir des malls, donc on peut normaliser via la consommation. Et il peut y avoir également des zones non habitées, contrôlées par les drones, par des robots, par des antennes de sécurité, avec des propositions qui veulent dire aussi que les gens ne vont pas pouvoir revenir chez eux, reconstruire leur maison se retrouver là où toute leur histoire et l'histoire de leur famille existait. Donc, il y a une violence qui s'ajoute à une violence, et il y a une mentalité d'agents immobiliers, de prometteurs immobiliers qu'on voit à Gaza. Et si on regarde Trump lui-même est issu de l'immobilier, Witkoff, qui est l'envoyé pour la région, c'est un monsieur de l'immobilier. Son gendre, Kushner, c'est un monsieur de l'immobilier qui a en plus des projets dans les colonies illégales en Cisjordanie occupée. Barak, qui est l'envoyé au Liban et l'ambassadeur en Syrie, c'est un milliardaire de l'immobilier. Et ils ont tous cette idée qu'on oublie le droit des Palestiniens à l'autodétermination, on oublie les droits des Libanais et des Syriens à la justice, et on remplace tout cela par des grands projets de l'immobilier, et après on crée des zones économiques, des malls, des îles artificielles en face de Gaza, des constructions sur la frontière libanaise, et c'est bon. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement violent et qui ne tient pas en compte l'histoire des gens, leur vécu et leur avenir.
Je reviens un instant sur un point que vous avez mentionné, l'hégémonie guerrière d'Israël, c'est votre expression, hein, Ziad Majed, et sur la Syrie en particulier. Depuis un an, des centaines de frappes ont eu lieu contre les bases militaires de l'ancien régime, en vue d'éviter, selon Israël, qu'une armée se reconstitue. Le 19 novembre dernier, Netanyahou a rendu visite à des soldats israéliens en Syrie. Le 27 novembre, on a vu un raid israélien meurtrier dans le sud de la Syrie. En quelques mots, quelle est la stratégie du Premier ministre israélien en Syrie actuellement ?
Alors, Israël considère aujourd'hui, avec l'aide américaine et avec tout le matériel sophistiqué et l'intelligence artificielle et la technologie américaine, allemande et européenne, mais surtout américaine, Israël considère qu'il a les moyens, et c'est ce que dit Netanyahou toujours, d'imposer une domination militaire, une hégémonie militaire dans toute la région et pas seulement dans les territoires palestiniens occupés ou génocidés. Et il considère que la Syrie, étant donné que c'est un grand pays au niveau démographique, au niveau de sa surface, qui a un grand potentiel, s'il est contraint à signer une paix avec Israël, qui reconnaît la souveraineté israélienne sur le Golan occupé en 1967, qui accepte des mesures de sécurité ou des accords par rapport aux nouvelles zones occupées par Israël, ça va donner aux Israéliens un avantage à très long terme, et que le Liban est isolé, l'Irak, il a de toute façon ses enjeux et son voisinage, que ça soit turc ou iranien, qui est assez chargé. La Jordanie, qui a tout le temps peur de ce qui se passe en Cisjordanie et du possible transfert des Palestiniens forcés par l'occupation israélienne. Et donc, on crée dans la région une sorte de crainte et de peur qui n'est pas temporaire, mais qui peut s'installer et qui montre que le policier de l'armée israélienne, avec ses drones, avec sa puissance, est toujours là. Et donc, empêcher une armée syrienne puissante, instrumentaliser dans le cas syrien la question druze, mais qui est une question sensible et réelle en Syrie, que le régime actuel doit gérer et doit traduire en justice ceux qui ont commis des crimes là-bas. Et donc, c'est une nouvelle donne qu'Israël essaye d'imposer, mais qui n'a, à mon avis, pas d'avenir. Elle est juste une donne de puissance militaire, de puissance de feu, sans puissance politique qui l'accompagne.
Et on recommande très chaudement la lecture de votre livre pour analyser, comprendre, mesurer l'ampleur de cette nouvelle donne, Ziad Majed, le Proche-Orient, miroir du monde, qui a paru il y a quelques semaines aux éditions La Découverte. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont préparé également cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation, François Richet.